n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Une année d'économie ensemble, une année de réforme. Chaque semaine, nous avons décrypté, commenté. Vous nous avez aussi commenté. Allez, un petit flashback avant de se quitter pour l'été, pour mieux se retrouver à la rentrée. Flashback donc. Qu'avons-nous vécu? Que vivons-nous? Pas encore un nouveau monde, mais un ancien monde bousculé, c'est sûr. Que retient-on? On retient le code du travail assoupli pour les entreprises. On retient la fiscalité transformée pour les premiers de cordée. On retient les symboles, bien sûr, les APL, l'ISF enterré, le statut du cheminot en voie de disparition. Oui, deux marqueurs, la SNCF et le code du travail, les réformes sont passées. Les syndicats en restent ébranlés. Une politique libérale, donc, ok. Et le social, alors? Il y a des mesures de fond structurelles. Il y a les classes de CP dédoublées, il y a la réforme de la formation professionnelle. Mais pas de virage social, on a bien compris, au sens de pas plus d'argent sur la table. Et justement, ce qui va nous attendre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois maintenant, c'est le dur, hein. On va beaucoup parler argent, parler du pognon dingue. Ce qui nous attend après les réformes, ce sont les coupes, la question des dépenses. Où faut-il couper? Les aides aux ménages? Les aides aux entreprises? Regardez la réforme des retraites en train de se préparer. L'été sera chaud donc. Eh bien, profitons-en, parce que croyez-moi, l'automne le sera encore plus.
Tous ensemble, tous ensemble, hey ouais, tous ensemble, tous ensemble, hey,
on n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Nous sommes très heureux de vous retrouver tous ensemble, encore une fois, jusqu'à 10h pour se dire les choses. Au fond des yeux, les débatteurs sont là. Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques, bonjour Christian.
Il est là, bonjour.
Emmanuel Le Chip, BFM Business, bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Tous ensemble, l'été sera chaud, l'automne aussi.
Emmanuel. Espérons-le.
Comment ça, espérons-le?
Bah, parce que s'il est chaud, ça veut dire qu'il y aura des choses chaudes sur la table. Donc, espérons, oui, il va y avoir des réformes, des
projets. Et des coupes.
Parce que là, le vrai dur va commencer. Vous avez entièrement raison. On a quand même fait le plus facile jusqu'à maintenant.
Christian, vous êtes
d'accord? Moi, je me rappelle d'un président de la République tout juste élu qui disait, je sais bien que j'ai été élu parce qu'on voulait pas de l'autre et que les inégalités sont là et que la société française va mal. Et un an après, où est-ce qu'on est? On accroît les inégalités, on coupe les aides aux pauvres. Vraiment, je comprends pas ce président de la République qui revient au début des années 80.
Les débatteurs sont là.
François Mitterrand, donc.
Les débatteurs sont chauds.
Non, chez Thatcher et Reagan.
Et ce matin, vous continuez la provoque. Hein. Assistons-nous, c'est la question que vous vous êtes posée. Assistons-nous à la fin du projet européen? On se retrouve, Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chip, dans une poignée de secondes. Après cette question angoissante, la deuxième partie du magazine sera, je l'espère, plus détendue. On n'arrête pas l'écho, va célébrer l'été et la chaleur à sa façon. D'abord, un reportage sur le modèle économique des campings, qui sont de moins en moins rustiques et de plus en plus luxe. Notre reporter...
Et de plus en plus cher.
Louis Valentin... Bah oui, ça va avec. Hein. Louis Valentin Lopez a enquêté, vous l'entendrez. Le tourisme, c'est presque 8% de notre richesse nationale. On continuera la réflexion avec le président des entreprises du voyage, Jean-Pierre Masse. Il sera avec nous vers 9h45. Et puis le clap de fin, ce sera Sandrine Foulon. Bonjour Sandrine, ma vie au boulot. Sandrine, question de Sacha, la dernière question de la grille.
Et oui, Sacha va travailler dans les festivals cet été. Il veut savoir si le travail la nuit ou le dimanche, c'est mieux payé.
Sacha, votre réponse, ça sera juste avant 10h. Tout de suite, 9h16 sur France Inter. L'angoisse, l'Europe qui se disloque, les grands enjeux, Écosoc.
Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte.
Et donc
On n'arrête pas l'écho. Le débat.
L'Europe a un problème, parce que l'Europe est celle qui paye l'addition.
Dominique de Villepin, ancien Premier ministre.
Montée de la Chine, déclin des États-Unis, et l'Europe se retrouve coincée entre les deux comme une variable d'ajustement du camp atlantique. Et ce qui est en cause, c'est la puissance de l'Europe. Nous voyons tous les jours le défi économique qui pèse sur l'Europe.
L'Europe apprend aussi à réagir et pu être aussi naïve.
Mathieu Plane, économiste à l'OFCE.
Une entreprise symbolique comme Harley Davidson est capable de délocaliser une partie de sa production en Europe si jamais on met aussi des taxes équivalentes à ce qui se fait du côté américain. Et donc la réponse finalement européenne, elle a été finalement très pragmatique et finalement très efficace.
On a empaqueté entre eux des pays qui ne sont pas harmonisés socialement, pas harmonisés fiscalement,
Et on leur a dit, battez-vous entre vous et que le meilleur gagne.
Adrien Quatennens, député La France Insoumise.
Ça produit un effet où, comme la compétition se mène notamment sur le prix, c'est toujours le moins-disant social qui gagne, entraînant tous les autres pays d'Europe. Ces traités actuels interdisent l'harmonisation sociale et fiscale. Par conséquent, dire que le dumping social est un dommage collatéral, c'est faux. C'est l'essence même de cette construction européenne.
Évidemment, la grande question, c'est de savoir quelle va être la réponse de l'Allemagne aux différentes propositions française.
Thomas Gomard, directeur de l'Institut français des relations internationales.
En particulier pour ce qui a trait à un budget commun d'investissement et puis également pour ce qui a trait aux ambitions en termes d'autonomie stratégique européenne.
S'il y a une crise qui touche un État membre de la zone euro.
Bruno Le Maire, ministre de l'économie.
Ça peut être la Grèce, ça peut être l'Italie, ça peut être l'Espagne, ça peut être la France aussi. Ce budget va permettre de stabiliser et d'amortir le choc de la crise.
On nous a parlé d'un budget de la zone euro à l'horizon 2021, sauf qu'il est dit d'emblée qu'il doit être minuscule, c'est-à-dire moins de 1% du PIB européen.
Thomas Piketty, économiste.
Surtout, on ne dit rien sur deux questions clés qui sont celles des impôts pour financer ce budget et celles de la démocratie. C'est-à-dire, si vous avez un budget qui est sans impôts et sans assemblée pour l'adopter, c'est pas un budget.
Nous avions jeudi et hier vendredi le Conseil européen, un sommet. Emmanuel Le Chypre, est-ce que lorsque vous demandez « est-ce la fin du projet européen », vous faites juste de la provoque ou est-ce que votre inquiétude est profonde et sincère ?
Non, c'est une inquiétude qui part d'un constat relativement simple, qui est que nous avons, nous, pays européens, de plus en plus de défis qu'on ne pourra pas relever tout seul. Il y a de plus en plus de défis qu'on ne pourra relever qu'ensemble. Défis climatiques, défis technologiques, défis migratoires. Et malheureusement, on a l'impression qu'on a de moins en moins de défis qu'on a envie de relever ensemble. C'est ça qui m'inquiète, c'est ce hiatus entre d'un côté le fait que tout seul, personne ne s'en sortira, mais qu'on n'a pas envie de travailler non plus avec les autres.
Christian Chavagneux.
Il y a Le Soir, qui est le grand journal belge, il y avait un titre cette semaine, « L'Europe contemple son implosion ». Je pense qu'on est au-delà de pour l'avenir, l'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est qu'aujourd'hui même, on est en train de voir sous nos yeux, peut-être notre génération, la fin du projet européen. Moi, c'est ça ma vraie inquiétude ce matin.
Alors, on va essayer de poser les questions, de définir les menaces, en tout cas économiques, parce qu'il y en a plusieurs, mais nous, notre prisme, c'est l'économie. Christian, trois questions, autant de menaces. La première, c'est est-ce qu'en 2018, l'Europe, qui a 61 ans d'existence, est-ce qu'elle compte encore dans l'ordre mondial ?
C'est pas ce qu'elle compte encore. Malheureusement, elle devrait compter. C'est le premier marché du monde. Et pourtant, on compte pas. Regardez ce qui s'est passé ces dernières semaines entre la bataille entre Trump et la Chine. Et d'où on était où ? On était en dessous. Pourquoi on était en dessous ? Parce que Trump a dit « Je vais attaquer les Européens et les Chinois ». Les Chinois ont dit « Si vous nous attaquez, je vous rends un pour un ». Les Européens ont dit « Oui, alors attendez, là vous nous embêtez sur à telle hauteur, mais nous on va vous répondre mais un petit peu moins parce que sinon l'OMC serait pas d'accord ». Enfin, on essaye de dire « Voilà, on va jouer l'équipe, on va jouer un match de foot avec les États-Unis, eux ils ont le droit de jouer avec la main et pas nous ». Mais nous on joue pas avec la main parce que c'est les règles. Comprenez, il faut respecter les règles. Pendant ce temps-là, l'équipe en face, elle a le droit de jouer avec les mains. Donc les États-Unis et la Chine sont en train de se battre pour essayer de savoir comment est-ce qu'on va répartir les zones de production et les emplois dans le monde. Et nous, on regarde comme ça, en attendant de voir ce qui se passe. Et puis on dit, oui, mais attention, nous, une fois que vous aurez décidé, on se calera sur ce que vous avez décidé. Donc on est un nain économique. L'Europe ne joue pas aujourd'hui, n'a pas de poids dans la définition des règles de l'économie mondiale.
Emmanuel Le Chypre.
C'est Hubert Védrine qui avait cette expression. Il parlait d'idiot Ancien du village global. Et on reste l'idiot du village global. Alors c'est vrai que vous parliez de la photo. Nous sommes quasiment le plus grand marché du monde, 500 millions de personnes, la première puissance économique mondiale quand vous agrégez un petit peu tous nos PIB, première puissance commerciale. Mais
Économies en croissance. Nous sommes une union d'économies en croissance.
C'est ça qui fait peur. La photo. Bon, allez, on peut dire qu'elle est, elle est plutôt jolie. Mais le film est quand même inquiétant parce que si on reprend justement tous les grands succès de l'Europe, ils sont tous très anciens. Les grands succès de la construction européenne, bon, c'est la paix, c'est les fonds structurels qui ont mis à niveau tout un tas de pays. Mais ça, c'était les années 80. Il y a la PAC qui a marché politique agricole commune, mais dont on voit les limites aujourd'hui. Sur tout le reste, rien. C'est-à-dire la diplomatie, rien. La défense, rien. L'énergie, rien, le social, rien, la fiscalité, rien, et la recherche et développement, rien. Songez quand même que l'objectif de 3% de dépenses du PIB en recherche et développement, c'est un objectif qui avait été fixé pour l'Europe en 2000. Songez qu'on ne l'a pas atteint en 2010 et qu'on ne l'atteindra pas en 2020. Songez qu'en 2000, on ne savait même pas ce que c'était qu'un iPhone, que personne ne connaissait Google, que Facebook, Amazon n'existaient pas et que Samsung fabriquait encore des téléviseurs. Vous voyez la vitesse à laquelle le monde change et à laquelle l'Europe ne veut pas changer. C'est ça qui est aujourd'hui inquiétant. Sur presque tous les sujets, en fait, l'Europe est fait toujours trop peu et quasiment toujours trop tard.
Vous la trouvez passive, Christian Chavailleux ?
Oui, juste pour aller dans le même sens qu'Emmanuel, vous prenez les grands secteurs de l'économie mondiale pour l'économie de demain. La technologie, Emmanuel l'a dit, Apple, Samsung, Amazon, Google, voilà les têtes. En santé, ces trois américaines. Dans le divertissement, qui tient une place de plus en plus importante dans les vies de tout le monde, trois américaines. Dans l'électronique, deux firmes multinationales américaines, une allemande. L'Europe est très très loin derrière. Vous prenez la finance internationale, le dollar, c'est encore 88% des échanges de monnaie dans le monde. Alors, il faut faire attention, parce que quand on échange le dollar contre autre chose, le total, c'est 200%. Donc, le dollar, c'est 88%, et nous, l'euro, on arrive derrière avec 30%. Très, très loin derrière. Une crise bancaire, aujourd'hui, c'est une crise bancaire qui viendra des États-Unis, pas d'Inde ou de Chine. Et puis, moi, j'ai ce petit indicateur que j'aime bien, c'est d'où nous viennent nos représentations du monde qui fait qu'on pense comme ci ou comme ça notre avenir. Bon, les prix Nobel qui ont été décernés depuis qu'il y a des prix Nobel jusqu'à aujourd'hui, toute discipline confondue.
Oui,
confondue,
avec des Américains, les vieux, machin. Des hommes blancs, voilà.
Oui, mais 38% d'Américains et les deuxièmes c'est le Royaume-Uni avec 12% dans le.
Dont beaucoup ne sont pas d'origine américaine d'ailleurs.
Dont beaucoup ne sont pas d'origine américaine. Mais en fait, pourquoi je prends des prix Nobel? Parce que c'est les grandes représentations du monde qui et qui cadre notre pensée, eh bien ça vient encore des États-Unis.
En même temps, qui vend 3 derrière. Millions de livres, c'est Thomas Piketty, le français.
Oui, d'accord. Voilà. Enfin, les autres aussi.
Mais vous trouverez toujours une exception qui confirme la règle. Sur la technologie, c'est quand même ça aussi. Quand on se tourne vers le futur, Christian a raison. C'est quand même ça aussi qui prépare notre avenir. Et le thème de colonie digitale est parfaitement adapté. C'est Laurence Boone l'économiste française, qui vient d'être nommée chef des économistes de l'OCDE, qui, en matière de technologie, parle d'Europe comme une diagonale du vide numérique entre les États-Unis et entre la Chine. On n'a pas d'acteur numérique, effectivement, de poids. Christian l'a dit. Prenez juste l'histoire des moteurs de recherche, par exemple, notre ami de Quant qui était là il y a quelques semaines,
c'est
moins de 1% des parts de marché des moteurs de recherche. Si vous prenez notre champion national, une entreprise absolument extraordinaire, OVH, entreprise française spécialisée dans le cloud, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires. Amazon Web Services, c'est 18 milliards de chiffre d'affaires. Donc vous voyez que sur tous les sujets, on est quand même très très en retard de ce qui se fait dans le monde, et en partie parce que moi je pense que le vice le plus profond, c'est quand même cette organisation institutionnelle qui fait qu'aujourd'hui c'est impossible d'avancer, de prendre des décisions en Europe et d'avancer.
Alors tout à l'heure, Christian parlait des crises. La deuxième menace, la deuxième question en fait, Christian, c'est est-ce que à 61 ans, l'Europe, ça y est quand même mieux configurée pour encaisser les chocs?
Bah non, je pense pas. Regardez la Grèce, par exemple, qui nous a été donnée en exemple cette semaine, comme on a un pays qui a eu un problème, on l'a bien géré, maintenant ils n'ont plus de problème, et puis la Grèce est terminée. Mais c'est un contresens absolument incroyable. L'austérité drastique a tué le pays et a tué des gens, c'est physiquement. Le pays aujourd'hui va très mal, 10% de chômeurs sont indemnisés, à Athènes, la consommation de psychotropes a été multipliée par 35. C'est ça le résultat dans la vraie vie des gens de l'austérité imposée par l'Europe aux Grecs. La trajectoire qui est prévue à moyen-long terme par l'Union européenne est complètement bancale. Tout ça pourquoi ? On nous fait croire que la Grèce va pouvoir rembourser ses dettes simplement pour ne pas avoir à l'annuler parce que les Allemands ne veulent pas l'annuler. Déni de solidarité. Voilà, notre capacité de répondre aux crises, c'est le déni maximum de solidarité.
Et la prochaine crise financière dans les chocs ?
La prochaine crise financière, d'abord, j'ai pas l'impression que elle soit imminente. Si vous regardez les grands équilibres financiers, ils sont moins inquiétants aujourd'hui que ce qu'ils étaient en 2008, 2009, 2010. Prenez la situation qui a failli faire exploser l'Europe, les dettes publiques très élevées, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Italie. Si vous regardez la situation financière de l'Espagne, de la Grèce, de l'Italie aujourd'hui, elle est quand même nettement meilleure qu'à l'époque. L'Italie, par exemple, qui inquiète aujourd'hui, en 2011, avait des très gros déficits extérieurs. Ça veut dire que vous avez besoin de l'épargne étrangère. Quand vous avez des déficits extérieurs, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Mais la réalité, c'est quand même que cette Europe qu'on a construite, elle a exacerbé les divergences et les différences entre les différents pays au lieu de créer de la convergence comme on nous l'avait promis. C'est-à-dire qu'en gros, la libre circulation des marchandises, des capitaux, des hommes, etc.
a fait que chacun s'est
spécialisé dans ce pourquoi il était le plus fort, et que la construction européenne a mis des a mis du sel sur les plaies de chaque pays. Parce que, effectivement, les difficultés fondamentales de chaque pays aujourd'hui, de l'Italie, de la France, etc., elles sont intrinsèquement liées à l'organisation de ces pays. Le sous-investissement en Italie, l'excès de dépenses publiques en France, etc. Mais l'Europe était censée corriger ça. Or, en fait, l'Europe n'a fait que pousser chacun à cultiver ses propres défauts. Et aujourd'hui, c'est quand même extrêmement problématique.
Donc, les économies qui divergent, l'Europe qui ne protège pas assez, ça, je pense qu'on a bien exploré le sujet pendant la dernière campagne présidentielle, l'Europe qui ne protège pas assez. Christian, on a eu là un sommet européen, il y a des choses sur la table qui paraissent encore très floues. Il y a cette histoire de budget de la zone euro, l'union bancaire, le fonds monétaire européen. Dites-nous si ce qu'il y a actuellement sur la table, et notamment poussé par la France, qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est de nature à renforcer l'Europe?
Juste un petit mot complémentaire pour un chiffre pour la divergence. C'est les économistes de Candriam qui ont simplement fait un calcul tout bête, le PIB par habitant des différents pays européens, entre le plus petit PIB par habitant et le plus grand. Au début des années 80, l'écart, il était 2,5 entre le plus pauvre, je dirais, européen et le plus riche. Aujourd'hui, c'est près de 4. Voilà ce qu'a fait aussi en partie la zone euro, c'est accroître les divergences économiques, accroître les inégalités entre les pays au sein de la zone euro. Est-ce que on va pouvoir y répondre avec un budget européen, une union bancaire, etc., etc. Aujourd'hui, la réponse est non. Pourquoi ? Parce que, est-ce que vous croyez que, dans le zapping, on avait cette expression. Aujourd'hui, l'Europe, c'est la zone du monde où il y a le plus de concurrence fiscale, où il y a le plus de concurrence sociale entre les pays européens par rapport au reste du monde. Est-ce que, en quoi on répond à ça en disant, on va avoir un ministre des Finances de la zone euro ? C'est une réponse technocratique, c'est une réponse d'économiste qui ne répond pas du tout aux enjeux de solidarité qui sont nécessaires pour faire face à une crise bancaire, pour faire face à n'importe quel type de crise. Alors oui, l'union bancaire, je trouve que le fait qu'aujourd'hui on est à Francfort, un superviseur européen qui puisse regarder les banques en Italie, en Grèce, en France, en disant « attention, là, vous allez trop loin, il va falloir faire quelque chose », je trouve que ça, c'est plutôt
progressé.
Bien. Là, on a progressé sur la surveillance. Mais si demain, on a tous peur que la Deutsche Bank explose, d'accord ? C'est une des plus grosses banques européennes. Demain, si la Deutsche Bank explose avec ses milliers de filiales partout en Europe et partout dans le monde, est-ce qu'on a la capacité de résoudre, d'organiser le sauvetage ou la faillite de la Deutsche Bank ? Je ne pense pas.
Une crise arrive des États-Unis, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Si une crise arrive des États-Unis, moi je pense qu'on a encore les outils. N'oublions pas qu'on est passé d'un déficit budgétaire de plus de 6% du PIB en 2009-2010 à 0,9% prévu, pour 2017. Donc on a des marges de manœuvre budgétaires et on a des marges de manœuvre monétaires. C'est vrai que les taux d'intérêt aujourd'hui ils sont très bas et quand ils sont à zéro, on ne va pas les mettre sous zéro. Mais on a compris avec la crise qu'on faisait du quantitative easing, qu'il y avait des politiques monétaires non conventionnelles qui nous permettent de répondre à la crise. Donc ça, mon inquiétude principale n'est pas sur le fait que si demain il y a une crise, et comme l'a dit Emmanuel, ce ne sera pas demain, si demain il y a une crise, on ne pourra pas répondre. Par contre, mon inquiétude, c'est le fait qu'on n'a plus de projet européen.
Emmanuel, le chiffre mot de la fin.
Ce qui est inquiétant, c'est un peu ce que disait Einstein, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a que les imbéciles qui pensent que quand vous faites la même politique et que vous trouvez les mêmes solutions aux mêmes problèmes, vous pensez que si vous faites à chaque fois la même chose, il y aura un résultat différent un jour. Et on voit bien que là, on refait tout ce qui n'a pas marché dans le passé avec ce ministre des Finances de la zone euro. Le bon baromètre pour voir si l'Europe va mal, c'est la réaction de l'Allemagne. Il faut savoir que l'Allemagne a peur quand même que d'une chose, c'est que l'euro explose et qu'elle se retrouve avec un mark très élevé qui tuerait son économie. Et donc à chaque fois que l'Allemagne sent que l'euro est menacé, elle fait des concessions. Elle l'a fait en 92-93, au moment des crises financières.
Enfin, là, les concessions sont floues, Emmanuel.
Faire l'euro. Mais là, en 2010-2011, c'est pareil. L'Allemagne a quand même accepté de faire un peu de solidarité financière. Là, il y a quand même cette idée. Si, Madame Merkel, elle a accepté cette idée de ministre. Oui, mais c'est là qu'on va voir que ça ne mène nulle part, puisque une fois qu'on a décidé qu'il y avait cette enveloppe un petit peu ministre des Finances de la zone euro, on voit bien que personne n'y met la même chose. Vous voyez bien que les
Budget de la zone euro, personne ne met la même chose.
Vous voyez bien que les Français y mettent plutôt un Père Noël et que les Allemands y mettent plutôt un Père Fouettard. Et il faudra se mettre d'accord sur tout ça.
Eh ben, je crois que pour cette mission, vous nous avez quand même un petit peu angoissé.
Puis c'est pas de mal qu'on aura une équipe d'Europe au Mondial de foot.
On en parlera plus tard, ça. Allez, l'économie comme elle se passe ailleurs. On ferme le dossier européen ce matin, je vous emmène en Afrique du Nord, au Maroc, où Danone est touché par un appel au boycott.
Soyez les bienvenus sur Medion TV, la télé que vous avez choisie pour vous informer et dans votre matinale.
Bonjour Stéphanie Wenger.
Bonjour Alexandra.
Stéphanie, vous êtes la correspondante de France Inter au Maroc. Donc, l'appel au boycott contre le lait, contre les yaourts Danone, a été lancé sur les réseaux sociaux marocains le 20 avril. Deux mois plus tard, la situation est suffisamment inquiétante pour que le patron de Danone tente une visite sur place, et ça s'est passé cette semaine.
Oui, il a donné une conférence de presse, mais il a aussi été à la rencontre de femmes, de jeunes, d'agriculteurs. Emmanuel Faber voulait faire passer ce message. Je respecte le choix des consommateurs, même si je le regrette. Il s'est engagé aussi à ce que Danone produise à l'avenir du lait à prix coûtant. Alors, il est trop tôt pour dire si cette visite aura un effet sur les ventes des produits de la marque française qui sont tombés à pic. Les offres commerciales n'ont rien changé. Les concurrents, eux, n'ont pas baissé leur prix. Donc, pour l'instant, le consommateur n'en sort pas gagnant non plus. Du côté de la filiale de Danone, en tout cas, les salariés sont plus qu'inquiets. Les intérimaires ont été remerciés. Un des sites de production est passé en sous-régime cette semaine. Depuis le début du mouvement, Danone a réduit de 30% les collectes aux éleveurs. Pour les plus petits, c'est une vraie perte de revenus. On a du mal à envisager aujourd'hui une sortie de crise. En tout cas, lors de sa visite, Emmanuel Faber l'a répété à plusieurs reprises. Danone, présent au Maroc depuis 1953, ne partira pas.
C'est très mystérieux, Stéphanie, hein, les raisons de ce boycott. Est-ce que ça nous dit quelque chose de l'état de la société, de l'économie marocaine aujourd'hui ?
Alors d'abord, le mot d'ordre lancé le 20 avril sur les réseaux sociaux, en effet, reste mystérieux. On ne sait pas qui est derrière. Il faut rappeler que deux autres marques sont concernées, une eau minérale et des stations essence. Cette fois-ci, pas des multinationales, mais des entreprises marocaines très implantées et dont les patrons font partie de l'élite économique, celle qui est proche du pouvoir quand elle n'est pas carrément au gouvernement. Ce qui est sûr, c'est qu'il est révélateur d'un vrai ras-le-bol dans une société marocaine de plus en plus écrasée par le coût de la vie. Le lait au litre est vendu au même prix, voire plus cher qu'en France, alors que le salaire minimum au Maroc tourne autour de 230 euros. Et ça, c'est pour ceux qui ont de la chance d'avoir un contrat. Beaucoup travaillent dans l'économie informelle au jour le jour. Alors, un des produits visés comme l'eau minérale ne concerne que la classe moyenne au Maroc, c'est vrai. Mais ce boycott est porté bien au-delà de cette catégorie sociale et résonne avec les préoccupations de l'immense majorité des Marocains.
Stéphanie Wenger avec nous depuis Rabat. Merci à vous. Christian Chavagneux, après l'angoisse sur l'avenir de l'Europe. Allez, on se quitte sur une bonne nouvelle écho.
Ah non, mais j'ai que des bonnes nouvelles à vous donner. Regardez, en huitième de finale de la Coupe du monde de football, les trois quarts des joueurs jouent en Europe. Vous voyez que l'Europe, elle est quand même bien présente. Et deuxième bonne nouvelle, cette semaine, la commission des lois de l'Assemblée a voté le fait que dans l'article 1 de la Constitution, la République agit pour la préservation de l'environnement, de la diversité biologique. Ça, c'est excellent. On peut mettre dans la Constitution le fait qu'on va défendre l'environnement. Et dernière bonne nouvelle, le Delaware. Vous savez, cet État américain qui a un véritable paradis fiscal. Et bien cette semaine, ils ont dit, on va rendre public les bénéficiaires effectifs des sociétés. Donc c'est la fin de l'opacité au Delaware. C'est pas une bonne nouvelle ça?
C'est une bonne nouvelle. Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chypre, je vous trouve un peu palo et donc venez, nous sortons du studio. Les sunlight, là, ça marche pas. Ce week-end, nous partons camper, mais je vous préviens, ouais. Le secteur a été bouleversé. Alors s'il vous plaît, vous ne dites plus camping, vous dites hôtellerie de plein air.
On est dans la petite voiture de golf et on va faire un petit tour du camping, le camping Monaco Park. Nous sommes avec la directrice du camping, madame
Dufa Christelle.
Voilà. Et c'est parti, on déballe la pente.
On est sur un domaine qui a à peu près 25 hectares. Là, on va partir donc du côté des locations pour les week-ends et les vacances à la semaine. Et là, on est en train d'attaquer une partie qu'on appelle haut de gamme, VIP, avec des jacuzzis. Ça, c'est tout nouveau, c'est du luxe et on en a deux et ça marche très très bien.
C'est important de se lancer dans le luxe aujourd'hui pour se différencier un peu.
Ah oui, complètement. Il faut absolument avoir les deux. On refait des toboggans avec un espèce de jet, des jacuzzis. Donc normalement, on devrait être prêt pour cet été.
Les clients aujourd'hui, ils sont plus exigeants quand ils vont au camping qu'avant.
Ah oui, complètement. C'est plus du tout le camping d'avant avec la petite caravane. Et... Non, aujourd'hui, on est vraiment obligé de monter en gamme. Là, on part sur 10 ans d'investissement.
Vous avez investi combien ?
Alors là, sur cette partie-là, on est sur 250 000 euros. On a l'habitude de dire avec mon mari et mes enfants, parce que c'est une entreprise qu'on a créée il y a 27 ans, c'est notre petit château. Il faut tout le temps investir. Chaque année, on essaye de se dire, ben voilà, cette année, on va faire pour les pédalos. Et l'année prochaine, on a prévu de refaire la discothèque.
Et vous réussissez quand même à rester rentable, notamment à cause de toute cette part résidentielle que vous avez.
En termes de rentabilité, on n'est rentable que depuis 2 ans. Parce qu'on ne fait pas de locatif comme certains campings et les gros groupes. Voilà, et eux, ils ont trouvé leur force dans le locatif. Il y a des gros groupes qui achètent les petits campings. Ils n'ont pas du tout les mêmes moyens que nous. Évidemment, leur location à la semaine, ce n'est pas du tout le même tarif que les nôtres. C'est sûr que des semaines à 250 euros, voire 150 euros, j'ai vu, nous, on ne sait pas faire.
Allez, on arrête la voiturette. Nous faisons la photo et elle est impressionnante. 8000 campings en France. Nous avons le deuxième parc mondial de camping après les États-Unis. Qui trouve-t-on au camping? Eh bien, à 70% des compatriotes. Et d'ailleurs, ce sont eux, les vacanciers français, qui plébiscitent ces nouveaux services, les piscines, les spas, les mobil-homes, les chalets. 2017 a été une année record. Le marché et les marges sont en croissance et justement, ils sont tirés en grande partie par ces services d'hôtellerie de plein air. Les purs et durs de la canadienne et du bloc sanitaire font la grimace, mais la montée en marche, en gamme est bel et bien en marche. Notre reporter Louis-Valentin Lopez, dans son grand baroud en voiturette de golf, a rencontré des habitués de la tente qui, ayant goûté au camping de luxe, ont basculé.
Moi, c'est Alain.
Moi, c'est Roberte.
Philippe.
Vous êtes des réguliers du coin?
Ça fait 10 ans que nous avons acheté ici.
Vous avez dépensé combien, si ce n'est pas indiscret?
31 000 euros.
Normalement, on devait changer de camping-car. Puis finalement, ça a été un coup de cœur.
Vous avez abandonné les tentes
On n'a plus trop l'âge, déjà.
Trop dur. C'est quand même assez trié, quand même.
Ouais.
Bon, il se fait une sélection par le... D'abord par des gens qui vous accueillent et vous reçoivent, et ensuite par les prix, quoi. Il y a un certain prix, donc automatiquement il y a une sélection qui se fait. Et c'est très bien d'ailleurs, parce qu'on a observé dans certains trucs que ouvrir aux masses, jamais été idéal, quoi.
Bonjour, je suis Valentin, je suis journaliste à la radio.
Moi c'est Dylan.
Moi c'est Brian.
Qu'est-ce que vous venez de faire là?
Là on cale le mobil-home pour les futurs acheteurs.
Le camping, d'après ce que j'ai compris, c'est une affaire de famille, c'est ça?
Oui, c'est ça, tout à fait. C'est une affaire de famille, ça fait...
Une trentaine d'années.
Et ça te fait plaisir de continuer un peu le travail qu'ont commencé tes grands-parents et tes parents?
Bah oui, tout à fait, en espérant continuer de nombreuses années.
Le rêve idéal quand on crée une entreprise comme ça, c'est que les enfants reprennent, mais voilà, on ne peut pas prévoir l'avenir. Ils ont aussi des projets, ils vont se marier, donc est-ce que les personnes qui vont rencontrer vont vouloir suivre cette aventure? Ça, on ne sait pas. Donc on s'y prépare quand même avec mon mari. Imaginons qu'ils ne reprennent pas, qui va reprendre? Alors, on a déjà des groupes, bien sûr, qui sont très intéressés.
Ah, c'est vrai, ils vous appellent
Oui, bien sûr. Mmh. Ouais, oui, en plus, je vous dis, Monaco Park est atypique. Presque 200 mobil-homes dans le Perche en résidentiel. Voilà, c'est une sécurité pour eux. Et après, ils développeront la partie locatif. Vraiment, ce serait un drame pour nous d'avoir construit tout ça et que voilà, ça parte dans un groupe. Et si on n'avait pas le choix... Hein.
Ils vous font des offres alléchantes, j'imagine?
Parfois, oui. Mais je ne vais pas donner son nom, mais on a un groupe régulièrement qui cherche quelque chose en pleine campagne. Et là, c'est vraiment, voilà, c'est l'endroit idéal.
Les gros groupes lorgnent donc du côté des indépendants. Avec cet objectif, c'est la montée en gamme. Oui, parce qu'il faut dire que l'an dernier, les campings qui ont enregistré la plus forte hausse des nuitées sont les établissements dits 5 étoiles avec plus 18%. Un exploitant touristique a bien compris l'intérêt d'investir ses pierres et vacances par le biais de son site maeva.com. Bryce Arnaud-Battendi en est le directeur général.
Bonjour. Maeva.com, en fait, ça a été lancé il y a 4 ans. On distribuait des campings, mais maintenant on va plus loin. On a lancé des campings Maeva.com. On va affilier des campings Maeva.com. C'est-à-dire que le camping va passer aux couleurs de Maeva.com. Donc c'est un contrat qu'on a avec le propriétaire du camping. Et en fait, on va les accompagner sur 3 éléments. Le premier, c'est qu'on va les aider à optimiser leur chiffre d'affaires grâce à notre force de distribution. Hein. On fait partie du groupe Pierre et Vacances. On va aussi les accompagner sur la gestion. Par exemple, on a une centrale d'achat et ça va leur permettre d'acheter moins cher certains éléments. Et le dernier, c'est qu'on va les aider à se différencier. On joue sur 3 leviers. Le premier, c'est les lieux. Plus les lieux sont beaux dans un camping, que ça soit l'accueil, que l'espace piscine.
C'est un peu relook mon camping, quoi.
On peut le voir comme ça, mais c'est clairement ça. On va relooker les campings.
Donc, l'objectif, si j'ai bien compris, c'est de s'affilier avec 150 campings en 5 ans, c'est ça?
C'est exactement ça.
On en est où là?
On en est qu'on vient de lancer, donc il y en a 2 cet été, un à Argelès, c'est Argelès Vacances, et un à Saint-Cyprien. Le Florida, c'est les 2 premiers, c'est ceux où justement on est en train de se tester.
Les campings, ils garderont leur nom ou ils prendront le nom de Maeva ou Pierre et Vacances?
Donc par exemple, Argelès Vacances, il s'appellera le camping Argelès Vacances Maeva.com. Donc où il y aura les 2 noms, il y aura Maeva.com et il y aura aussi le nom du camping.
C'est quoi la contrepartie exactement? Ils vous donnent quoi en échange? Ils doivent payer, j'imagine?
On va prendre en garantie une partie de leur parc de mobile home pour leur assurer un certain revenu. Après, eux, ils nous versent un pourcentage qui est lié au chiffre d'affaires. Il est entre 2 et 5%. Et en fait, il est à 5% quand ils augmentent de plus de 10% leur chiffre d'affaires. Ils ont des obligations d'investir un minimum dans leur camping parce que justement, on va les accompagner avec un designer pour être sûr que l'atmosphère qu'il y a dans le camping fonctionne avec ce que demandent les clients d'aujourd'hui et ce que demandent les familles d'aujourd'hui. On demande à ce que les mobilhomes soient récents. Il faut qu'il y ait un club enfant, il faut qu'il y ait des toboggans, donc qu'il y ait certaines infrastructures qui permettent de rentrer dans notre niveau de gamme maeva.com.
Et s'il y a de plus en plus de bassins, de spas, de services luxueux, eh bien c'est aussi une question de réglementation. Explication avec la responsable marketing à la Fédération des campeurs, caravaniers et camping-caristes, Céline Cochelin.
En fait, ce qui a beaucoup changé les choses, c'est qu'en 2010, la réglementation concernant les étoiles, l'obtention des étoiles a changé. Donc ça a demandé au secteur de l'HPA, en fait, de l'hôtellerie de plein air, de revoir beaucoup de choses et de faire beaucoup d'investissements pour pouvoir coller justement à la grille d'obtention donc des étoiles. Donc il se voulait être beaucoup plus qualitative et plus proche finalement de l'hôtellerie traditionnelle. Et c'est vrai que avec l'arrivée du glamping notamment et de tout ce qui est insolite,
le glamping.
Le glamping, c'est une contraction du glamour et du camping. Et donc, en fait, c'est tout ce qui est justement lié un petit peu à du haut de gamme. Avoir, par exemple, des cahutes avec un jacuzzi et puis la bouteille de champagne. Ben là, on est un petit peu loin quand même du camping traditionnel. Ça s'est beaucoup professionnalisé. Ça leur a demandé de faire beaucoup d'investissements.
Au risque de s'uniformiser, eh bien, il faut relativiser. Encore un camping sur cinq n'est ni étoilé ni classé. Et puis, ceux qui ont investi des fortunes dans des équipements pourraient bientôt se remettre en question. C'est l'avis d'Olivier Sirost, professeur à l'université de Rouen. Il a écrit non pas une, mais deux thèses sur le camping.
Il ne faut pas le négliger. Il y a un problème qui va bientôt toucher le camping, qui est celui de l'usure des infrastructures qui ont été mises en place d'un point de vue marchand dans les années 90 au début des années 2000. C'est-à-dire que c'est bien d'essayer de créer des petits édens comme ça avec de la végétation artificielle qui ne devrait pas du tout être plantée à l'endroit où on la développe. C'est bien d'avoir presque 25% du parc aquatique qui est dans cette hôtellerie haut de gamme du camping. Le problème, c'est que les installations vieillissent et la grande question qui va sans doute tomber très vite sur la tête des professionnels, c'est quel est le coût que ça va représenter en termes de renouvellement et d'entretien du parc.
Et ça va être cher.
Et ça va être cher, voire exorbitant, et je ne suis pas sûr que ce modèle économique soit viable dans la durée.
Quel est pour vous, si on prend tout ça en considération, l'avenir du camping? Comment est-ce que vous voyez ça? Plus d'uniformisation, ou peut-être, un retour au camping tel qu'on le concevait encore il y a quelques années?
Je vois ça de manière hétérogène. Les initiatives économiques ont plutôt eu tendance jusqu'à maintenant à vouloir homogénéiser le modèle du camping, hein. Donc perte des une étoile, deux étoiles. On voit qu'aujourd'hui, les indicateurs, à la fois dans l'hôtellerie de luxe avec la cinquième étoile, hein, on a un retour à la cabane des origines, qu'elle soit dans les arbres, sous forme de yourtes, de bulles, de dômes, etc. Et qu'en même temps, finalement, le secteur associatif, contre toute attente, n'est pas mort, qu'il est même en train de renaître de ses cendres parce que, justement, il correspond à la recherche de vacances pas chères et il correspond aussi à des objets techniques qui sont diffusés par la grande distribution. Alors, on a tous en mémoire les fameuses tentes 2 secondes ou 3 secondes qui ont été commercialisées là récemment, qui permettent de revenir vers un camping à l'ancienne.
Donc la tente plantée dans le sol et le camping-car ne sont pas morts?
Ne sont pas morts et à mon avis, ils ont de beaux jours devant eux, notamment au moment où on se questionne beaucoup sur l'économie durable et solidaire, sans toujours être capable de l'opérationnaliser et eux, visiblement, sont en train d'inventer le modèle de demain.
Les campings sont-ils en train de devenir des hôtels comme les autres? C'était le reportage de Louis-Valentin Lopez.
Tous les samedis, à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Le camping et les hôtels et les clubs, on dit que le tourisme apporte plus de 7%, près de 8% au PIB français. Le président des entreprises du voyage vient de nous rejoindre pour poursuivre la réflexion. Bonjour Jean-Pierre Masse.
Bonjour.
Les entreprises du voyage se sont
tous les professionnels, c'est-à-dire les agences en ligne, les agences en dur, les tour opérateurs.
Les réceptifs, c'est-à-dire ceux qui reçoivent des étrangers qui viennent en France, et le voyage d'affaires.
Vous me citez 3-4 marques pour ne pas faire de jaloux et qu'on voit bien de qui on parle.
T8, Thomas Cook, Selectour, Avas Voyage.
Allez, voilà. Jean-Pierre Masse, la seule question de ce samedi, c'est est-ce que le résultat de France-Argentine a un impact sur les réservations ?
Absolument aucun. Absolument aucun. Je crois qu'il y aura 3000, peut-être 5000 Français pour le match France-Argentine. C'est-à-dire, ça n'a pas d'incidence. Et puis, que vous soyez en France ou que vous soyez à l'étranger pour regarder, que vous le regardez de la même façon que vous soyez en France ou à l'étranger.
Ah, mais j'ai lu qu'il y avait des Français qui attendaient de savoir comment allait évoluer la France pour faire ou pas des réservations pour les prochains jours, les vacances.
Cela, je ne les connais pas, je les vois pas. Je suis pas persuadé qu'ils existent.
Alors, la question écho. L'été 2018, est-ce que les Français ont assez de morale et assez d'argent pour partir en vacances ?
Alors très clairement, oui. Le moral des ménages, les vacances, c'est corrélé au moral des ménages. 2017 a été une excellente année. Il y a eu ce qu'on a pu appeler peut-être l'effet Macron. On a eu un peu moins peur du chômage, un peu moins peur de l'avenir des enfants. Une libération des Français qui sont partis en vacances. 2017 a été l'année record du tourisme. Et 2018, s'il n'y a pas d'événement exceptionnel, sera supérieur.
Pas d'effet mondial, mais est-ce qu'il y a un effet grève ? Est-ce qu'il y a un effet SNCF ou Air France ?
Un petit peu. Le mois de mai n'a pas été un bon mois en matière de réservation, parce que quand on est embêté dans son quotidien, on n'a pas envie de penser à ses vacances, on pense à son quotidien, on focalise. Les grèves, ça a un effet, ça a un impact également sur l'attractivité de la France à l'étranger. Les étrangers, quand ils voient les images en boucle, qui tournent en boucle, d'aéroports bloqués ou de passagers attendant sur les quais de gare, ils n'ont pas envie de venir en France. Oui, l'effet grève a ralenti les réservations.
Ça a ralenti les réservations, mais pour autant, vous nous dites que 2018 sera historique.
Malgré ce ralentissement ponctuel du mois de mai, les perspectives de l'été sont en très forte hausse. Il y aura 6 Français sur 10 qui partiront en vacances. Il y en a 3 sur 10 qui ne partent jamais en vacances quand même. 6 sur 10 partiront en vacances, les 2/3 en France, 1/3 à l'étranger.
Est-ce qu'il y a un effet, quelqu'un me parlait d'un effet tout sauf Air France, c'est vrai ça, lorsque vous avez des réservations, ça existe ou pas ?
C'est plus vrai dans le voyage d'affaires que dans le loisir. La longueur de la grève d'Air France et le risque de la voir se reproduire à la rentrée, pas pendant les vacances, à la rentrée, et en même temps, la moindre attractivité du programme Flying Blue d'Air France, du programme de fidélité, fait qu'il y a des passagers à faire qui sont très réticents et demandent de rechercher d'autres solutions que la solution Air France.
Est-ce que là, on est en train d'attendre la nomination, c'est un gros dossier Air France, on est en train d'attendre la nomination du futur patron, du futur PDG. Est-ce que pour les professionnels du voyage que vous êtes, c'est aussi une impatience ?
L'avenir d'Air France est un sujet de préoccupation. Les professionnels ont intérêt à ce qu'il reste une compagnie leader française. Je dis bien française et pas nationale. C'est-à-dire que l'État n'a rien à faire dans le capital d'Air France et ce serait beaucoup plus sain qu'il en sorte. Ça éviterait à certaines catégories sociales de se dire de toute manière l'État nous repêchera si nécessaire.
Est-ce qu'Air France, vous dites que c'est important d'avoir une compagnie française, enfin, pas nationale, française. Est-ce qu'Air France peut disparaître ?
Absolument. Air France peut aller dans le mur. Ils s'en approchent à grande vitesse même. Ils peuvent aller dans le mur de la même façon que des compagnies aussi prestigieuses que Swissair, Sabena, Panam ont disparu dans le passé et alors que tout le monde pensait qu'elles étaient complètement ignifugées.
Pour vous, elle se pose comment l'équation Air France ?
Air France est pris en étau entre les compagnies du Golfe ou des compagnies comme Turkish Airlines, par exemple, qui est devenue maintenant une des principales compagnies mondiales en matière de qualité, avec un hub à Istanbul. Ils prennent étau entre ces compagnies qui fournissent des services de qualité avec des prix inférieur, un personnel moins coûteux qu'Air France, et de notre côté des compagnies low cost qui ont un modèle économique low cost avec des pilotes, du personnel qui travaille un petit peu plus, qui est payé un petit peu moins cher, des avions qui tournent un peu plus, des modèles d'avions qui sont des modèles uniques, donc plus facile à traiter. Et Air France est dans cet étau. Il faut en sortir par le haut. British Airways et Iberia en sont sortis par le haut. Lufthansa aussi. Air France stagne, ne sort pas du tout et risque d'être complètement écrasé dans l'étau.
Jean-Pierre Mas, il y a un paradoxe, je reviens à cette idée que la France est la première destination mondiale, hein, c'est ce qu'on nous dit. Et pourtant, si on regarde les recettes, nous sommes en cinquième position, on voit que l'Espagne fait mieux, arrive à plus monétiser le passage des touristes. Qu'est-ce qui se passe chez nous ?
L'Espagne fait mieux, les États-Unis,
la Thaïlande,
la Chine fait mieux hein, que nous. Ce qui se passe, c'est que la durée moyenne du séjour est trop faible, que les Allemands qui vont passer leurs vacances en Espagne traversent deux fois la France, sans compter deux fois, et font un plein à l'aller sur l'autoroute et un plein au retour sur l'autoroute. Donc ils consomment rien, ils consomment peu, ce qui fait que l'équation entre le nombre de touristes et la recette est faible. Pour augmenter la recette, il faudrait augmenter les pôles touristiques en France, répartir le tourisme sur le territoire. Aujourd'hui, il est hyper focalisé sur Paris, qui est quasiment la seule porte d'entrée pour les touristes étrangers en France, touristes lointains, pas des touristes européens.
Les Chinois, les Brésiliens, oui, ils arrivent à Roissy, les Américains.
Les Indiens, ils arrivent à Roissy, ils vont à Paris, à Versailles, à Disney, et puis ils partent en Angleterre ou ils partent à Rome. Donc il faut qu'il y ait une politique d'aménagement touristique qui n'existe pas. Les politiques en France, les hommes politiques, le personnel politique considèrent avec beaucoup de condescendance le tourisme en disant « ça se fait tout seul, c'est pas délocalisable ». Ça représente, vous le disiez, dans le PIB, beaucoup plus que l'agriculture et l'automobile réunies. Donc, il n'y a pas de raison de s'en occuper. Et mais ils ont tort.
Si je vous écoute, Jean-Pierre Mas, ce que vous voudriez, c'est qu'on ouvre d'autres portes d'entrée sur le territoire, que d'autres aéroports deviennent majeurs pour les touristes étrangers, c'est ça ?
La DGAC, qui attribue les droits de trafic. L'autorité de contrôle, qui attribue les droits de trafic, c'est-à-dire qui permet à une compagnie de venir s'installer en France. La DGAC, sous l'influence d'Air France, et pour protéger Air France, évite de donner des droits de trafic à des compagnies qui sont très demandeuses. Emirates, par exemple, qui va à Paris, Lyon et Nice, voudrait aller à Bordeaux ou à Marseille, à Toulouse, je ne sais. Et elle n'obtient pas ces droits de trafic. Il y a une sorte de protectionnisme de l'industrie française qui nuit à l'activité touristique globale. Et le tourisme, c'est de l'emploi, c'est de la recette, c'est des revenus pour le pays.
Ouais, on comprend là pourquoi vous dites, pourquoi l'avis des entreprises du voyage, c'est que l'État doit sortir du coup d'Air France.
Il n'a rien à y faire.
Jean-Pierre Mas, mais là, c'est donc la politique publique. Est-ce que les professionnels n'ont pas aussi des questions à se poser ? Est-ce que, par exemple, la qualité de l'accueil, ça a quand même été un énorme problème ? Est-ce qu'on est plus sympa avec les touristes, tout simplement ?
Il y a beaucoup à faire en matière de qualité d'accueil. On a vu des pays évoluer très très rapidement en qualité d'accueil. Regardez la Chine. Avant les Jeux Olympiques, le Chinois n'était pas accueillant, il crachait par terre, il était mal élevé, il connaissait aucun mot d'une langue étrangère. Les Chinois ont formé la population. Il y a un travail à faire pour la formation, pour la pratique de l'anglais, la pratique minimaliste même.
Mais ça fait des années qu'on dit ça.
Mais oui, mais c'est toujours le même.
Les professionnels du tourisme, pas que la population, il y a aussi les professionnels.
Alexandra Bensaïd, regardez, vous arrivez à Roissy. Vous prenez le RER de Roissy à la gare du Nord. Vous tombez en panne la nuit à Aulnay-sous-Bois. C'est terrorisant. Tomber en panne la nuit à Aulnay-sous-Bois à RER.
Enfin, quand vous allez de l'aéroport La Guardia à New York City, c'est pareil, c'est un peu terrorisant partout.
Non, il y a quand même de meilleurs services. Aujourd'hui, on n'a pas de liaison à la hauteur de nos ambitions entre le pôle d'entrée principal et la capitale.
Allez, il nous reste quelques secondes, Jean-Pierre Mas. Le tourisme, secteur en forte croissance, difficulté de recrutement ?
Oui. Difficulté de recrutement parce que le tourisme n'attire pas assez, ou ceux qui veulent rentrer dans le tourisme arrivent avec des bac plus 2, bac plus 4.
Il faut payer plus.
Alors il faut les payer plus, mais il faut également un BTS qui soit adapté à nos besoins. Il ne l'est pas aujourd'hui et on a besoin d'emplois de base en quelque sorte, et en effet il faut mieux les payer.
Jean-Pierre Mas, le président des entreprises du voyage, pour faire le point sur le secteur. Merci d'être venu sur France Inter ce matin.
Ma vie au boulot. Sandrine Foulon.
Sandrine, vous avez vu les difficultés de recrutement dans le tourisme, il faut mieux les payer. Sacha, lui, il va travailler comme serveur dans des festivals cet été. Il vous a écrit parce qu'il va travailler aussi le dimanche et il se demande s'il peut espérer gagner plus que le SMIC horaire. Et
pourquoi pas, Sacha, les établissements peuvent vous payer plus, mais ils ne sont pas obligés de vous offrir une compensation le dimanche ou le soir. La convention collective de l'hôtellerie-restauration considère que ces plages horaires sont inhérentes à la profession. Les bars et restaurants doivent en revanche vous accorder des jours de repos complémentaires. compensateur. C'est bien sûr différent si vous travaillez dans un magasin qui a décidé d'ouvrir ses portes le dimanche. Dans ce cas précis, le volontariat des salariés est récompensé, les salaires sont payés double. C'est aussi la raison pour laquelle de nombreux étudiants acceptent de sacrifier leur dimanche. Sacha, en fonction de ce que dit la loi, les accords de branche ou d'entreprise, c'est à vous de regarder quels sont les jobs les plus rémunérateurs. Bon, dans les festivals, il n'y a pas que les bars. Certaines marques vous rémunèrent pour que vous postiez vos photos de concerts sur les réseaux sociaux. Pareil pour les lieux de tournage de séries. La location saisonnière offre de nouvelles possibilités de petits boulots, testeurs de logement ou concierge pour remettre les clés aux touristes. Le pet-sitter qui garde les animaux pendant les vacances peut espérer gagner un peu plus que le SMIC.
Une information précieuse. Sérieusement, Sandrine, ce que vous nous dites, c'est que les horaires atypiques ne sont pas récompensés ou ne sont plus récompensés?
Oui, alors dans quelques jours, on aura le sentiment d'assister au grand chassé croisé estival des travailleurs typiques qui travaillent du lundi au vendredi de 9h à 18h et de tous les saisonniers qui vont turbiner week-end, jours fériés et soirées comprises. Ce qu'on sait moins, c'est que toute l'année, près de la moitié des salariés en France, 44%, sont déjà amenés à travailler en horaire décalé. 10 millions de personnes sont dans ce cas-là, nous dit le ministère du Travail. Occasionnellement, un tiers d'entre elles vont au boulot le samedi, comme nous ici, 23% travaillent en soirée et 19% le dimanche. Plus on a tendance à vivre en horaire décalé, plus on les cumule. En clair, celles et ceux qui bossent le samedi sont souvent les mêmes que l'on retrouve le dimanche ou la nuit. Selon les secteurs, les compensations financières sont plus ou moins fortes. Selon le jour ou la nuit aussi, le dimanche, le salaire peut doubler, alors qu'en moyenne, les majorations ne vont que de 20 à 25% pour le travail de nuit. Si les cadres, eux, travaillent plus souvent le soir, ce sont les ouvriers, les employés, les commerçants ou les fonctionnaires, autrement dit les catégories les moins bien rémunérées, qui sont abonnés au travail atypique. Sacha, pour vous, le travail de nuit ne devrait durer qu'un été. Pour tous ceux dont c'est le quotidien, cette montée des horaires atypiques pose, au-delà du salaire, des problèmes de santé dont il va falloir très vite reparler.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Sandrine, merci à vous. Et puisqu'on baisse le rideau, merci à tous ceux qui ont fait le sel du Magéco. Cette année, les débatteurs, Chava Chypre, le Chagneux, les reporters Anaël Verzo, Manuel Ruffez, Louis-Valentin Lopez, les réalisateurs Coyen Guyenne, François Audouin, les attachés de production, Jérémy Younes et Raphaël Couder. Et merci à tous nos techniciens ce matin, à Mathias Alléon.